Et maintenant, pour vos nouvelles locales, grâce au financement par l'Initiative de journalisme local. Lors d'une réunion du comité plénier le jeudi 18 août pour la ville de Yarmouth, Chuck Smith, un résident de la ville, a présenté au nom d'un petit comité qui milite pour l'érection d'un monument en l'honneur du 2e bataillon de construction, le plus grand unité militaire ségrégée noire de l'histoire du Canada. Sa demande est à double pour la ville dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il a demandé une lettre d'appui, ainsi que le conseil considère éventuellement financer une partie du projet en cours de route. À la suite de la présentation, une motion visant à rédiger une lettre d'appui au projet et à considérer un financement ultérieur a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal. En plus de sa passion pour l'histoire militaire, le monsieur Smith a un attachement personnel au bataillon, vu que son grand-père servit dans l'unité.
The other important fact, which I said is personal, my grandfather was in that unit. Reverend Charles Nathan Smith, he was in that unit, and so that really personalized it for me.
L'histoire du 2e bataillon de construction a été remise en lumière par le feu sénateur Calvin W. Rock, qui a publié Canada's Black Battalion, No. 2 Construction, 1916-1920, en 1986. Selon une note de l'auteur, le grand-père de M. Smith, le révérend Charles Nathan M. Smith, a été interviewé pour le livre en 1971 avant de décéder en 1973. Le révérend Smith avait occupé les rangs de sergent et de sergent-major régimentaire intermédiaire. S'adressant au sénateur Rock sur les raisons de la formation d'une unité ségrégée, le révérend Smith avait déclaré que le 2e bataillon a été formé en raison de la discrimination et des préjugés. La politique de l'armée, officielle ou non, était de ne pas accepter de volontaires noirs dans les unités régulières. Au cours des premières années de la Première Guerre mondiale, plusieurs volontaires noirs se voyaient refuser l'admission aux forces canadiennes. Souvent, il se faisait dire qu'il s'agissait d'une guerre d'hommes blancs. Bien que certains officiers étaient prêts d'admettre ces hommes, certains dans les unités refusaient de combattre côte à côte avec des hommes noirs. Même les ordres prescrivant qu'il n'y ait pas de discrimination sur la base raciale se faisaient régulièrement ignorer par les recruteurs. En juillet 1996, un bataillon ségrégué qui deviendra le 2e bataillon de construction était premièrement établi à Pictou en Nouvelle-Écosse. Plus tard dans la même année, il fut déménagé à Truro. L'unité se forma sous le commandement du lieutenant-colonel Daniel H. Sutherland. Sutherland, comme tous les autres officiers du bataillon sauf un, était blanc. L'aumônier du bataillon, l'honorable capitaine William Andrew White, un ministre baptiste noir de Truro en Nouvelle-Écosse, compta le seul officier noir de l'unité et aura été le seul officier de commission noire des forces britanniques pendant la Première Guerre mondiale. On peut comparer cela aux États-Unis qui en compta 600. Le bataillon avait également été autorisé de recruter dans toutes les provinces, ce qui, selon le sénateur Rock, était une reconnaissance du fait que le bataillon ne concurrençait pas d'autres efforts de recrutement, étant donné que les volontaires noirs furent largement refusés. Des hommes et des garçons de travers du Canada, certaines colonies britanniques et des États-Unis composèrent l'unité. Toutefois, la Nouvelle-Écosse fut le lieu d'origine le plus populaire. En décembre 1916, le colonel Sutherland a reçu un message d'Ottawa lui indiquant qu'il fallait de toute urgence envoyer un bataillon outre-mer. Il répond que le bataillon était encore en train de recruter, mais qu'il pouvait être prêt à partir de la dernière semaine de février. Avec 19 officiers et 605 hommes et garçons de d'autres grades, l'unité était bien loin de l'effectif autorisé de 1049 officiers et soldats. Ils se sont embarqués pour l'Angleterre en mars 1917, mais comme ils en étaient sous-effectifs, le bataillon a été restructuré par le ministère de guerre en une compagnie de travail de 500 hommes et le reste a été ajouté aux forces de renfort. La compagnie est rattachée au corps forestier canadien et la majorité sert à l'ajout dans les montagnes du Jura, tandis que de plus petits détachements sont envoyés à Perron et Alençon. Quoique la majorité des soldats ne virent pas directement le combat, le révérend Smith est cité dans le livre de Rock pour avoir déclaré que le bataillon avait subi de bombardements en France par des avions allemands. Un nombre limité fut finalement affecté à des unités de ligne et participa au combat de tranchées. Avec la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, l'unité retourne au Canada tôt en 1919 et fut officiellement dissous le 15 septembre 1920. M. Smith indique que son comité postule pour un financement auprès du programme de partenariat pour la commémoration d'un ancien combattant Canada. Ce programme couvre jusqu'à 50% du financement du monument. Il estime que la totalité du projet coûtera entre 30 000 et 35 000 $. Le comité trouve plusieurs partenaires dans la communauté, selon M. Smith. Il travaille avec la Legion locale pour identifier une zone et les lettres de soutien et potentiellement un financement. Le local suggéré est le parc commémoratif aux combattants de guerre, situé en face de l'hôtel de ville et devant la bibliothèque locale. La Greenfield Community Hall Association s'efforce de parrainer ce projet, selon M. Smith, qui fait partie du conseil d'administration de l'association. Greenville, dans le comté de Yarmouth, était à l'origine une communauté loyaliste noire. M. Smith pense qu'il est approprié d'avoir des partenaires communautaires qui représentent la communauté concernée. De plus, il dit que l'entreprise locale Quarry Concrete est prête à donner le béton. L'Office des affaires afro-néo-écossais, partie du ministère des communautés de la culture, du tourisme et du patrimoine de la Nouvelle-Écosse, a également été approché pour des lettres de soutien et un financement potentiel. Néanmoins, le comité continue de rechercher des partenaires au projet. M. Smith a indiqué qu'il avait envisagé d'ajouter M. Roy Fells au nom des 16 qui fut dans le bataillon. Bien qu'il n'ait pas fait partie du bataillon en question, il a participé à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale et il est considéré par M. Smith comme un héros de guerre dans la région. Lors d'un entretien avec la radio CIFA, M. Smith a reconnu que les excuses présentées par le Premier ministre Trudeau avaient été un facteur de motivation supplémentaire pour faire avancer ce projet. Le voici en train de parler de cet événement au conseil municipal.
I feel a monument would be appropriate for this town. I was to the apology. The government gave an apology on July the 8th in Truro, and there was 2,500 people there. It was really, really a moving time for all that attended, particularly for people from the black community. And Trudeau, he spoke very well, extremely well. That particular feel was where the battalion, 106 years ago, where the battalion formed. It was amazing for me to stand there and think that Granddad was there in that unit 106 years ago and in that field. You know, so it was a very, very moving and a really good time.
Et maintenant, un extrait des excuses présentées par le Premier ministre Justin Trudeau à Truro.
Je suis ici aujourd'hui afin d'offrir les excuses du gouvernement du Canada pour la façon horrible dont ces patriotes ont été traités. I am here today to offer the government of Canada's official apology for the appalling way these patriots were treated. For the overt racism of turning black volunteers away when they offered to sacrifice their lives for all, we are sorry. For not letting black service members fight alongside their white compatriots, for denying members of No. 2 Construction Battalion the care and support they deserved, we are sorry. For failing to honor and commemorate the contributions of the members of No. 2 Construction Battalion and their descendants, for the blatant anti-black hate and systemic racism that denied these men dignity in life and in death, we are sorry.
Également présent pour entendre les excuses était Peter Richards de Hilltown dans la municipalité du district de Clare, dont son grand-père, Percy James Richards, servit dans le 2e bataillon de construction. Percy Richards était originaire de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, mais sa femme était originaire de la région de Hilltown et s'y est établie pendant un certain temps après la guerre avant de retourner à Saint-Jean. Monsieur Richards a dit que les excuses étaient puissantes et significatives. Il mentionne qu'elles contribuent à faire reconnaître la dignité et les sacrifices des combattants.
Oh, great deal. just were the recognition of the being able to speak about the battalion and give an apology because of the racism. And I have to say that Trudeau done his speech went a long way on racism and how the battalion was treated, how blacks were treated there, right, in the service. So, yeah, it was really good.
Il raconte également à apporter une photo de son grand-père à la cérémonie et qu'il l'a soulevé de temps à autre pour rappeler aux présentateurs à qui il se présenta symboliquement leurs excuses.
That picture, we done a parade, right, a march past, and then we were seated in front of the stage where the speakers were going to be Trudeau and etc. And I kept that picture forefront. And I think that's what garnered all the attention was that picture. And at certain times when he says certain things with the apology, I raised the picture. And I made sure that they could see the picture. And they did see the picture.
Gilles Saunier, Radio CFA.